Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, dans la première partie de notre émission, nous commençons une nouvelle série sur le psaume 23. Didier sera de retour pour en discuter en compagnie de Yann. Ensuite, lors de notre courte méditation biblique, nous reviendrons sur la première lettre de Jean et Claude nous fera part de ses réflexions.
Avant d'accueillir Didier, Sandra va nous lire le psaume 23. Cédons-lui tout de suite la parole.
Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table. Aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai.
Merci. Didier, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann, et bonjour à tous.
Didier, le psaume 23 est un psaume très connu et apprécié. Alors, comment allons-nous l'aborder?
Oui, il est vrai que ce psaume est riche en réconfort, et il nous aide à mieux comprendre la bienveillance de Dieu envers tous. Pendant plusieurs émissions, nous réfléchirons sur le sens de ce psaume en nous penchant sur chacun des versets qu'il contient. De plus, nous chercherons à comprendre sa signification à la lumière de la vie de Jésus-Christ, ainsi que de sa mort et de sa résurrection. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons discuter sur les 5 premiers mots du psaume « L'Éternel est mon berger ».
Merci. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait bon de savoir qui a écrit ce psaume.
Ah, la Bible nous l'apprend dès le premier verset, car nous lisons « Psaume de David ».
Et qui est David ?
David était le deuxième roi de la nation d'Israël. Il a vécu environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Il est le plus renommé de tous les rois d'Israël, parce que sous son règne, Dieu a permis qu'Israël triomphe de ses ennemis et qu'il prospère en tant que nation. David était aussi un poète remarquable. Il a écrit de nombreux cantiques que nous retrouvons dans le livre des psaumes. Toutefois, il est intéressant de noter qu'avant d'être choisi pour devenir roi d'Israël, David exerçait un tout autre métier, celui de berger.
Donc David était bien placé pour comprendre le rôle des bergers et pour écrire à ce sujet. Au début du psaume 23, David déclare avec joie « L'Éternel est mon berger ». Pourquoi ?
David a appris que tout comme les brebis ont besoin que l'on s'occupe d'elles, les hommes et les femmes ont aussi besoin de quelqu'un pour veiller sur eux. David a connu une vie très mouvementée. Dès sa jeunesse, il était berger. Puis, il a été pourchassé par le roi Saül et il a dû de ce fait se réfugier dans des lieux désertiques. Plus tard encore, il est finalement devenu roi, avec de très lourdes responsabilités. Toutefois, à chaque étape de sa vie, David témoigne « L'Éternel est mon berger ». David exprime ainsi sa dépendance envers Dieu, sa foi en l'Éternel et son désir de marcher avec lui, ainsi que sa confiance en sa bienveillance. Mes chers amis, vous pouvez occuper une place très modeste et humble dans la société, ou encore une position de pouvoir avec de lourdes responsabilités. Quoi qu'il en soit, ce psaume l'affirme, « L'Éternel est le berger dont vous avez besoin, et vous pouvez placer votre confiance en lui. »
David utilise donc le métier de berger comme image pour illustrer la nature de la relation étroite qui lie le croyant à l'Éternel. Quelles sont les leçons principales que nous pouvons tirer de cette illustration ?
Il ne faut pas perdre de vue le fait que David exerçait le métier de berger dans une région du monde assez aride et sujette à des périodes de sécheresse. Le berger devait y conduire ses brebis aux endroits où elles pouvaient s'abreuver et se nourrir. Sur son chemin, il devait veiller à leur sécurité et les protéger de tout danger éventuel, notamment de la menace posée par les bêtes sauvages. En résumé, le berger devait veiller sur le bien-être et la sécurité de son troupeau. De la même manière, si nous affirmons que l'Éternel est notre berger, c'est pour expliquer qu'il veille sur son peuple et le conduit, qu'il le nourrit et le protège. Nous examinerons les rôles du berger plus en profondeur lors des prochaines émissions consacrées à l'étude de ce psaume.
Ces affirmations soulèvent des questions car nous vivons dans un monde où les gens ont des besoins, où les épreuves et les dangers sont présents. Et malheureusement, les chrétiens ne sont pas épargnés des difficultés. Pourtant, malgré tout, David ose déclarer au verset 1 « Je ne manquerai de rien ».
C'est vrai, Yann, et nous nous pencherons sur ces questions profondes. Mais, sachez-le, David a lui aussi vécu son lot d'épreuves, tout aussi pénibles et douloureuses les unes que les autres. Lui aussi a connu des périodes de privation. C'est dans ce contexte que la prochaine fois, nous réfléchirons sérieusement à la signification de ces paroles « Je ne manquerai de rien ». En attendant, je voudrais dès maintenant souligner une leçon de première importance.
Je vous en prie, quelle est-elle ?
Si l'Ancien Testament, et notamment ce psaume, déclare que l'Éternel est mon berger, le Nouveau Testament, quant à lui, affirme que Jésus est notre berger.
Pouvez-vous nous dire où cela se trouve ?
Oui, c'est Jésus lui-même qui le déclare. Lisons l'Évangile de Jean, chapitre 10, les versets 10 à 14. Ce sont les paroles de Jésus.
Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup. Et il abandonne les brebis. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent.
Le peuple juif connaissait bien les Écritures contenues dans l'Ancien Testament. De ce fait, les gens savaient bien que l'Éternel était leur berger. Alors, entendre que Jésus annonce que c'est lui le bon berger représentait pour eux une grande surprise, voire un choc.
Pourquoi ?
Parce que Jésus s'identifie à l'Éternel. Il déclare en fait « Je suis Dieu avec vous ». Il s'agit d'un indice parmi beaucoup d'autres qui nous permet de croire qu'en Jésus, Dieu est devenu homme. Ces paroles nous permettent d'affirmer que Jésus est tout aussi bien divin qu'humain. Ce que Jésus atteste correspond à l'accomplissement de la prophétie du prophète Ézéchiel qui, des centaines d'années auparavant, avait écrit « Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel » Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. » Oui, le berger éternel et divin est venu en personne, en Jésus-Christ, pour prendre soin de son troupeau. Jésus est notre berger, et notre étude du psaume 23 va nous aider à mieux comprendre la nature de la relation étroite qui lie le croyant à Jésus. Elle va nous aider à mieux faire confiance à Jésus et aussi à le suivre au quotidien.
Merci Didier pour cette introduction enrichissante du psaume 23. Nous vous retrouverons bientôt.
Merci Yann, et au revoir à tous.
Merci Didier. Maintenant, c'est le moment de passer à notre courte méditation biblique. Nous revenons sur les écrits de l'apôtre Jean. Dans quelques instants, Claude nous fera part de ses réflexions. Mais avant de lui céder la parole, Sandra va lire un extrait de 1 Jean, au chapitre 4, les versets 1 à 3.
Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde.
Bonjour à tous. Jean a écrit cette épître pour rassurer et instruire les chrétiens troublés par de faux enseignants qui avaient probablement réussi à diviser l'Église. Malheureusement, des situations semblables sont fréquentes de nos jours. Il existe de nombreuses doctrines qui courent au sujet de Jésus et une multitude de faux enseignements sont donnés en son nom. La présence des médias et des moyens de communication modernes facilite la diffusion de ces croyances. Les églises peuvent en arriver à se diviser, laissant les croyants profondément troublés et ternissant ce que devait être leur bon témoignage. À travers les versets que nous venons d'écouter, nous apprenons qu'il est très important de discerner le vrai du faux. Il est très important de savoir comment reconnaître la vérité pour pouvoir rejeter les mensonges qui courent au sujet de Jésus. Ce texte nous met devant une triste réalité. Il y a de faux enseignants qui annoncent de fausses doctrines à des fins personnelles, pour obtenir un profit financier par exemple, pour exercer un pouvoir et même pour obtenir des faveurs sexuelles. D'autres annoncent de fausses doctrines, plus par ignorance, simplement parce qu'ils suivent les dernières croyances populaires à la mode, sans discernement, sans évaluer le bien fondé de l'enseignement qu'ils apportent. Selon Jean, toutes ces personnes sont antichrist, c'est-à-dire que malgré leurs apparences, elles s'opposent à Christ et à son Église. À l'époque de l'apôtre Jean, les faux enseignants niaient l'humanité de Jésus, le fait qu'il soit véritablement homme. C'est à cela que l'on pouvait reconnaître les faux enseignants. Toutefois, les faux enseignants peuvent toucher beaucoup d'autres doctrines relatives à Jésus que nous n'avons pas le temps d'énumérer maintenant. Alors, comment acquérir le discernement nécessaire pour éviter d'être séduit par de faux enseignants? Il faut rester fidèle à l'enseignement des apôtres tel que nous le trouvons dans les écrits du Nouveau Testament. Il faut apprendre à mieux interpréter et à mieux comprendre la Bible. Il faut se méfier de tout enseignement, de toute vision et de toute prophétie qui annonce des soi-disant vérités, clairement en contradiction avec la Bible. Il ne faut pas accepter une nouveauté sans l'avoir examinée, à la lumière de la parole de Dieu.
Merci Claude pour ce rappel important. Nos deux intervenants seront de retour la prochaine fois pour la suite de nos deux séries. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.